Joseph Massescaron est notre invité à présent. Bonsoir Joseph.
Bonsoir Bernard.
Joseph, vous êtes journaliste, écrivain et spécialiste notamment, pas uniquement, de politique intérieure. J'aurais vous poser une question sur la France insoumise. À deux jours de différence, je vois Émeric Caron se moquer de Sophia Rimbaud. Il se moque beaucoup d'elle, hein, la France insoumise. Mais là, vraiment, elle vient d'avoir un prix au CRIF. Et je ne sais pas là, les mots utilisés, il y en a très peu, mais tiens donc, haha, je m'en doutais. Non, je sais pas. Mais quelle surprise! Sophia Aram a un prix du CRIF. Moi, déjà, pendant des années, je n'ai pas connu comme ça des députés qui attaquaient directement le CRIF. On faisait attention de ne pas attaquer les Juifs de France. On était en désaccord sur Israël. C'était, ça ne se faisait pas. On n'attaquait pas les JF. Ça ne se faisait pas. Mais déjà, là, elle a un prix, on lui reproche. Et elle-même, d'ailleurs, elle a fait le parallèle. Elle a dit, regardez comment Soral parle de moi, regardez comment Émeric Caron parle de moi. Les deux disent la même chose. Puis le lendemain, on revoit Émeric Caron qui revient. Alors, cette fois-ci, sur un autre sujet, sur pourquoi un journaliste de RTL est-il allé inviter Frédéric Ancel? Là encore, Frédéric Ancel, c'est un chercheur, enseignant, qui ne partagent pas du tout les positions de la France insoumise, mais on passe encore une étape. Pourquoi vous avez... C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il soit parias et est-ce que c'est le rôle d'un député de décider qui sont les invités sur les plateaux de radio? Et qu'est-ce qu'il a dit d'incroyable, Frédéric? Frédéric, partout, il dit que ça doit se terminer avec deux États, un État israélien et un État palestinien, cette histoire. Et est-ce que vous avez le sentiment, en tant qu'expert, que la France insoumise est en train, parce que c'est le rôle, parce que c'est la façon de faire des extrémistes, de s'auto-nourrir et de s'extrémiser. C'est comme ça. On est un groupe, en plus c'est un vrai groupe, donc chacun rajoute et finalement on ne se rend pas compte qu'on pète les plombs. Est-ce qu'on est face à un député qui s'appelle Émeric Caron, qui comme Rima Hassan a besoin d'avoir des likes, il n'en peut plus, le gars c'est son truc. Est-ce que la France insoumise sent que la situation lui échappe ou au contraire que ça marche? Comment est-ce que vous voyez cette accélération dans la police, le flicage, l'extrémisation de la France insoumise?
Alors, juste avant de répondre à votre question, moi, je vais juste poser pour moi la première des questions, c'est comment expliquer cette impunité de la France insoumise? Parce que, comme vous l'avez rappelé vous-même, il y a deux dérapages de Caron, mais ce sont des dérapages qui sont des dérapages permanents, pas simplement de lui, mais de députés, de députés dont on retient moins le nom, mais qui sont toujours sur le créneau. Quand vous pensez à un moment donné qu'il y a eu un parlementaire, je dis bien un parlementaire, qui avait pris un ballon avec la tête du président de la République, qui s'immisait à s'appuyer dessus pour le faire éclater, très franchement, là, on se dit qu'on a franchi quelque chose, qu'on n'est même pas dans la manière dont se comportaient les ligues factieuses dans les années 30. Enfin, je veux dire, on est là-dedans, on est dans la même épure, hein, quand Charles Maurras disait en parlant du ministre de l'Intérieur Schrammeck, il faut que tout bon Français ait à portée de main un couteau de cuisine au cas où Schrammeck passe près de sa fenêtre. En gros, c'est la substance dans sa lettre à Schrammeck. Là, on est vraiment dans on est au-delà de la violence. C'est-à-dire, on est au-delà de la violence symbolique, au-delà de la violence politique. On est vraiment dans une violence verbale qui est telle, qui consiste systématiquement à coller une cible dans le dos de personnes qui peuvent, de près ou de loin, être en désaccord avec la France insoumise, alors qu'on est dans une société qui est de plus en plus violente. Hein. On le voit avec les faits divers qui sont en fait des faits de société. Donc, passer son temps à mettre des cibles sur le dos des gens avec une violence et avec, en fait, la volonté de dire, voilà, nous disons le bien, par nature et par essence, nous disons le bien, toute personne qui pourrait émettre un avis contraire est une personne qui doit être
abattue,
dont nous réclamons la mort sociale en permanence. Donc, les deux cas étant Sophie Ram et Frédéric Ancel, et l'un et l'autre sont des personnes éminemment respectables. On peut être en désaccord avec l'une avec l'autre. Moi, je ne suis pas ni avec l'une ni avec l'autre, mais on peut très bien. Je comprends qu'on peut, mais on n'est absolument pas dans ce registre. On n'est pas dans le registre du débat en permanence. Il y a plus de débat possible. Moi, je suis qui est quand même un certain âge. J'ai connu l'époque où, dans les années 80-90, il y avait des affrontements idéologiques très forts qui étaient menés par le Parti communiste français. Bien. Mais on n'arrivait absolument pas à ce degré de haine et de volonté. C'est-à-dire que, en fait, finalement, vous savez, le PC qui était parvenu à contenir l'extrême gauche en mai 68, on s'en rappelle, eh bien là, on peut dire que finalement, quelques décennies après, l'extrême gauche a gagné. Et que, parce qu'on n'est pas dans la gauche radicale, on est vraiment dans l'extrême gauche. Je vais prendre juste un point qui n'est jamais relevé par les observateurs, qui ont mis d'ailleurs un certain temps quand même à relever entre nous le fait que la structure organisationnelle de LFI, qui est un mouvement gazeux, n'est pas démocratique. Évidemment, il n'y a pas de congrès LFI, il n'y a pas de conseil national LFI, il n'y a rien. C'est quelque chose qui est en effet gazeux. Elle était gazeuse. Bien. Ce qui, quand même, pour la démocratie, lorsqu'on est partisan d'une vie démocratique partisane, pose quand même problème. Mais bon, admettons qu'il a fallu le livre La Meute pour que les gens commencent à s'en apercevoir. Mais, par exemple, il y a au sein donc de la France insoumise, il y a quelques sensibilités, si je puis dire, mais il y a un parti qui est représenté, qui a d'ailleurs en tant que tel un élu à l'Assemblée nationale, qui est le Parti ouvrier indépendant, qui est un parti lambertiste d'extrême gauche. Et ça ne pose de problème à personne. Et régulièrement, d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon se rend à des réunions de cellules de cette formation pour porter la bonne parole. Donc, on est vraiment dans une stratégie de... On n'est plus dans le parti de gauche, on est avec LFI. On est aujourd'hui dans une stratégie qui est une stratégie qui volontairement est une stratégie d'affrontement. Un jour, Jean-Luc Mélenchon, c'était en 2016, m'avait dit « Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas d'être élu président de la République. » Il disait ça parce qu'il pensait à François Hollande, et pour lui, François Hollande était un échec total. « Moi, ce qui m'intéresse, ce que je veux, c'est marquer, écrire une page de l'histoire de la gauche de ce pays. » Et en fait, c'est ça qui l'intéresse. C'est ça qui l'intéresse. Peu importe la manière dont il va écrire cette page. Peu lui importe. C'est pas ça l'important. Il peut le faire par la rue, et je pense que c'est par la rue qu'il souhaite le faire, réellement. C'est pas par les urnes, c'est pas par... c'est absolument pas de... Ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse absolument pas. Ce qui l'intéresse, c'est vraiment le chaos pour mettre chaos la République.
Wow. Joseph Massescaron, merci pour ces quelques mots sur Radio Shalom. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, La Croix des Ténèbres. C'est paru aux éditions Presse de la Cité, si je ne m'abuse.
Absolument, merci beaucoup.
Et je vous remercie d'avoir été l'invité de Radio Shalom. Bonsoir à vous.